Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être parmi vous encore aujourd'hui. Amen. Seigneur, sois béni pour ça. Amen. Je suis heureux de réaliser aussi que le Seigneur était avec vous. Père céleste, nous nous approchons de toi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car lui a ouvert la route, une route vivante qui nous conduit jusqu'au trône de miséricorde. Autrefois, le chemin nous était fermé. Aujourd'hui, il nous est ouvert par la grâce de l'œuvre merveilleuse qu'il a accomplie pour nous à Golgotha. Le salut merveilleux qu'il nous a obtenu. Comment pouvons-nous négliger un si grand salut? Nous te remercions d'avoir pensé à cela pour nous. Car aucun de nous ici ne peut sauver son semblable. Nous dépendions tous de ta volonté de nous sauver. Et tu as voulu nous sauver. Tu nous as parlé de ce salut. Nous l'avons accepté, nous l'avons désiré. Ce qu'il y a, nous voulons que tu augmentes notre foi, que nous puissions le saisir. Merci pour le rassemblement aujourd'hui, ce soir. Merci de nous avoir permis de chanter. De parler dans la prière, de t'adorer. Maintenant, nous te demandons de bien vouloir nous parler au travers de ta parole, que nous puissions écouter attentivement, que ta grâce nous enveloppe. Bénis ta parole, loin les cœurs. Pour le voyage que nous avons accompli pendant cette période d'absence. Nous pouvons être absents, mais toi jamais. Tu as été avec nous, tu nous as accompagnés, tu as été avec ceux qui sont restés. Et avec d'autres qui sont partis. Tous ceux qui ont besoin de ta présence en bénéficient. Disait le cantique, comment cela, on ne peut pas l'expliquer, mais nous savons que c'est une réalité, car ton nom c'est aussi Jéhovah Shammah. Pardonne-nous nos offenses, elles sont nombreuses, et veuille accéder à nos demandes, nous t'adressons. Des personnes qui ont besoin de ton aide. Il y a la tante de mes sœurs qui n'est pas bien. Il y a la tante de mon épouse. Il y a certainement aussi d'autres tantes ailleurs. Des oncles, des frères, des papas, des mamans. Leur espérance en toi et qui tournent le regard vers toi. Nous te regardons et nous espérons que tu veuilles bien nous écouter, que tu nous entendes comme tu as entendu Bartimée ce jour. Exception de personne. inspire-nous ta parole, Seigneur. Nous avons droit à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire un seul verset dans Proverbe. Proverbe 29, pardon. J'intéresse la deuxième partie, on va lire. Phrase. Beaucoup de gens recherchent la faveur de ceux qui dominent, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Amen.
Amen.
Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Intitulerons le sujet « C'est l'Éternel qui fait droit à chacun ». Question à vous ce matin. Faites-vous partie de chacun? Si vous faites partie de chacun, dites
amen.
Dire que vous avez des droits de la part de l'Éternel. Un droit, est-ce un droit? Ça veut dire quoi? Si c'est un droit, vous pouvez exiger. Exiger. Recevoir. C'est un droit. Et ce droit, personne ici ne l'a demandé. C'est Dieu lui-même qui a jugé bon de nous l'accorder. Ce que nous appelons un droit donné par Dieu à chacun. Citation. N'importe quel homme qui doit se battre pour les droits que Dieu lui a donnés et les réclamer. Vous avez le droit de les réclamer. Vous pouvez réclamer parce que c'est un droit. Il ne faut pas être timide. C'est votre droit. Ne soyez pas gêné de faire exercer votre droit. Jésus-Christ nous a appris à prier. On se l'a dans Luc. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il n'a pas refusé. Et il nous dit, quand vous priez, dites, Père, c'est votre droit d'appeler Dieu le Créateur, Père. C'est votre droit. Et maintenant, imaginez-vous devant votre Père terrestre ce que vous sembliez être en droit de lui demander. Vous avez un Père céleste. Luc 11. Nous sommes au verset 2. Père, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire, pas seulement parce que moi je dis que ton nom soit sanctifié, ça veut dire qu'au moment où je lui parle en son nom, que moi, je ne déshonore pas ce nom. Que ton règne vienne, que toi tu domines. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Vous avez le droit de manger chaque jour et pas tomber dans le défaitisme, vous disant, ben, Dieu veut que je ne mange pas aujourd'hui, donc je ne demanderai pas. Non, vous avez le droit de demander à manger. Vous n'avez pas à faire le modeste disant, bon, Dieu veut que ça soit ainsi. Gloire à Dieu. Non, Dieu ne veut pas que vous soyez affamé. Il peut vous éprouver, d'accord. Mais il veut voir comment vous vous comportez dans l'épreuve. Et c'est justement votre comportement dans l'épreuve qui montrera si oui ou non, vous mettez Dieu dans une situation telle qu'il est obligé de vous satisfaire. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. C'est votre droit. Vous êtes pécheur, vous avez le droit de demander pardon. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il dit ceci. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, toi, tu n'as pas le droit de venir frapper chez moi. Bon, d'accord, on est amis, hein? On est amis, mais ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne vais pas me lever pour te donner du pain. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Comme ça, je peux dormir en paix. Pouvoir dormir la nuit, c'est un droit. Alors, s'il veut exercer son droit, qu'il soit généreux. Dites amen à ça. Vous voulez exercer votre droit? Soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Alors, il nous dit que nous avons le droit d'importuner un ami. Je n'irai pas chez un inconnu la nuit, et lui demander 3 pains. J'irai chez un ami. Au nom de notre amitié, je vais chez lui et lui dire, hé, frère, mon ami, James, j'ai besoin de pain chez moi. Si vous avez faim, donc, ou si vous êtes malade, vous êtes en guerre, qui que vous êtes, Vous avez le droit de demander à Dieu. Un incrédule, maintenant, qui se retrouve en danger, ne sachant pas comment s'en sortir, et que tout d'un coup, il voit que, et qu'il réalise, qu'il n'a pas d'issue, et qu'il se dise, bon, on m'a déjà parlé d'un certain Dieu chrétien, que je me mette à genoux, il se met à genoux et il demande, vous savez que, il était incrédule il y a 5 minutes, il a le droit de demander à Dieu. Dieu peut le lui donner et lui montrer qu'il est Dieu. Même pour l'étranger, Salomon fait cette prière. 1 roi 8. C'est un droit que Dieu a donné. Il n'a pas donné qu'aux prédicateurs. Quelqu'un est malade et que c'est un de vos proches. Vous n'avez pas le temps de courir jusque chez frère François. Ou bien comme son téléphone est quasiment tout le temps sous silencieux, il n'entend pas la sonnette. Vous voulez absolument que ce soit frère François qui vienne imposer les mains. Mais frère François, il peut ne pas être joignable. Mais vous avez le droit d'imposer les mains et de prier pour vos malades. À forte raison, bien sûr, celui qui prêche l'évangile. 1 roi 8, verset 37. Quand la famine, il prie, Salomon prie, la peste, la rouille. Daniel, les sauterelles d'une espèce, ça détruit les récoltes. Vous avez vu ce qui s'est passé, un certain orage en France, un orage localisé qui ne se déplaçait pas. Tout est tombé au même endroit pendant un petit temps, mais suffisant pour inonder et suffisant pour détruire toute une récolte. Il y a un vigneron qui se plaignait, il a dit « toute ma récolte est détruite à 100%. » Alors que dans le village à côté, à 100, 200 mètres plus loin, il ne pleuvait pas. Les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, assiégé par les maladies, ces ennemis invisibles, mais sournois qui nous font du mal dans le corps, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, Covid, tout ce que vous voulez. Mais on n'y sait pas, disant, c'est le fléau qui atteint le monde entier. Que ça atteigne le monde entier ou pas, vous avez un droit. Amen. En tant que croyant. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et tendent les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, les droits de chacun, n'est-ce pas? Le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Ainsi, ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom. Amen. À cause de son nom. Aujourd'hui, si nous prions pour les malades, à cause du nom de Jésus-Christ, Dieu doit faire quelque chose. Parce que ce nom-là, c'est lui qui nous l'a donné. Il nous a été donné des cieux. Alors, à cause de ce nom-là, Dieu est obligé de nous accorder ce que nous lui demandons en ce nom-là. Car on saura que ton nom est grand. Parce que le nom de Jésus est grand. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de nom plus grand, dit le poète. Car on saura que ton nom est grand. Ta main forte et ton bras étendu. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger, même l'étranger, tout ce qu'il te demandera, pas une partie, tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, n'est-ce pas? Comme ton peuple d'Israël, et sachant que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, le regard tourné vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Et Dieu a exaucé cette prière. Amen. Dieu est responsable de ce qu'il promet. C'est aussi une citation, ça. Je ne suis pas responsable des promesses. Le prophète qu'il a envoyé en cet âge nous dit, Dieu est responsable de ses promesses. Moi, je ne suis pas responsable. Que votre situation soit désespérée ou non, Dieu est responsable de ses promesses. Si seulement, comme il dit, je fais les choses selon la voie que lui m'a demandé de faire. Si je fais les choses comme sa parole le dit, selon sa parole, maintenant, j'ai le droit de lire cette parole. Vous avez le droit de la lire, ce qui est écrit. Vous avez le droit de méditer. Vous avez le droit d'écouter la lecture. Il y a une bénédiction pour ceux, pour celui qui lit et ceux qui écoutent. Vous avez le droit. Mais il y a une chose à laquelle vous n'avez pas droit, moi non plus, que personne d'entre nous n'a droit, c'est d'interpréter la parole. 2 Pierre, chapitre 1er. C'est-à-dire, si c'est écrit d'une certaine manière, je la lis telle qu'elle est écrite. Je ne la change pas. On va le dire. L'apôtre Paul ne s'est pas donné le droit de changer quoi que ce soit. D'abord, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 20 ou verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Et ça, je veux déjà anticiper un petit peu, que cela soit écrit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Moi, ça me chiffonne lorsqu'on dit « Ah, ça, c'est l'Ancien Testament ». Le proverbe qu'on vient de lire, ça vient d'où? C'est dans l'Ancien Testament. Alors, vous voulez me priver de ça parce que c'est dans l'Ancien Testament? Et pourtant, ce proverbe me dit que Dieu me fait des droits. Lorsqu'on commence à dire ça, c'est l'Ancien Testament, c'est une interprétation. Ça peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, nous y sommes, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne peux pas changer la parole, même si c'est l'Ancien Testament. Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 1er. Pardon, chapitre 2. Verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire falsifier? Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, quand vous dites, ça c'est l'Ancien Testament. Je parlais avec mon frère Tombeau au téléphone il y a quelque temps. Je dis, quand Paul dit, que dit l'Écriture? Il va regarder où? Il regarde dans l'Ancien Testament. Quand il dit, dans Galates ici, il le dit. Il dit, que dit l'Écriture? Est-ce qu'il nous parle du Nouveau Testament? Galates, chapitre 4. Verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit où? Qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Paul, c'est l'Ancien Testament. C'est la parole de Dieu. Vous savez, on a droit à ce que Dieu exauce nos prières. Mais on a lu, dans 1 Roi 8, on ne va pas le relire, nous devons reconnaître nos fautes. Dieu, nous pouvons exiger de Dieu notre droit pour autant que nous reconnaissions nos fautes. Et nous reconnaissons la punition. Quand David dit, cet homme mérite la mort, David reconnaissait la punition qu'il fallait. Mais la grâce de Dieu a fait. Qui a fait grâce? Ce n'est pas Uri, C'est Dieu qui lui a fait grâce. Ce n'est pas à vous de faire grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Nous, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On leur pardonne. Mais un pardon n'enlève pas une réparation. Si vous m'avez abîmé un objet, je peux refuser. Bon, laisse tomber, frère. Mais je peux ne pas refuser, frère. Remplace mon objet. Bien, il a perdu de sa valeur. Tu dois suppléer. Et là, Dieu va vous entendre. Là, vous pouvez exiger vos droits. Nous sommes l'église de premier-né. Hébreux 12. François est allé chercher un verset dans l'Ancien Testament. Oui. Mais je suis parti le chercher dans l'Ancien Testament. Vous savez, si Dieu ne fait pas les choses comme dans l'ancien temps, exactement comme Frère William disait souvent, Dieu est dans l'obligation de réveiller les gens de Sodome et leur demander pardon. Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux, de l'assemblée, de l'église, des premiers-nés, inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, vous êtes rapprochés, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Les premiers-nés. Qu'est-ce qu'ils avaient comme droit, les premiers-nés? On peut aller dans l'Ancien Testament. Vous voulez connaître votre droit? On va jusque dans l'Ancien Testament. Ça va commencer dans le Nouveau Testament. Deutéronome 21. François, si tu lis Deutéronome 21, il ne faut plus lire Deutéronome 22. Qui vous a dit ça? Dieu m'a montré qu'il ne faut pas lire Deutéronome 22. Deutéronome 21. Je suis désolé, mais ce sont des choses qu'on doit taper avec le marteau. Verset 15. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, le fait d'aimer l'une, mais pas l'autre, n'enlève pas au premier-né son droit. Dites amen à ça. L'amour de l'homme, là, n'enlève pas le droit. Et s'il en a des fils dont le premier-né, si un homme qui a... Et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, bon, le premier-né est de la femme qu'il n'aime pas, c'est souvent la première, celle que l'homme n'aime pas, puisqu'il est parti en chercher une deuxième, ça veut dire que maintenant il ne l'aime plus, il ne pourra point
quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime. C'est le fils de la non-aimée là qui est le premier-né. Gloire à Dieu. De celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et lui donnera sur son bien une portion double. Amen. C'est ça le droit d'aînesse. Amen. Tout le monde a la même portion. Vous savez, le premier-né de celle qu'il n'aime pas aura la même portion que tout le monde. C'est son fils, mais la même portion que tous les autres. Mais quant au premier-né, lui, il a double portion. C'est-à-dire, s'il en a trois, il doit diviser par quatre, n'est-ce pas? Si c'est 100, il doit diviser par quatre, 25 par personne, mais l'autre, au lieu d'avoir 25, il en aura 50. Ça va? Et je dis, non, il ne doit pas diviser par 4, il doit diviser par 5, en fait. Parce qu'il y en a un qui compte double. Il divise par 5, ça fait 20. Alors, les trois autres, chacun aura 20, 20, 20, lui, il aura 40. Il a la double portion. Ça va? Et cette double portion, spirituellement, c'est quoi? 2 Rois, chapitre 2. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux, que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion. Pas de ton plat de midi, ni de ton plat du soir, mais je veux une double portion de ton esprit. » Ça va? Une portion ne te suffit pas, il dit non, non. Je veux une double portion de ton esprit. C'est un type du Saint-Esprit. Les miracles que je fais, vous le ferez aussi. Et même davantage. Par le même esprit qui opère ces miracles. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Vous savez, je parlais à la fille de la tante là-bas, je lui dis, tu sais, nous avons un Dieu qui traite des cas difficiles. Et nous ne consultons pas Dieu pour les cas faciles. D'ailleurs, quand c'est un cas facile, c'est rare qu'on se mette à prier d'abord et puis on agit. Parce que le cas est tellement facile. N'est-ce pas? La tête qui me fait un peu mal, c'est rare qu'on pense à prier Sauf si ça persiste. Hein. Mais tant qu'on considère que c'est un cas facile, à tête fait marquement, dans le temps, dans l'Ancien Testament, on prenait de l'aspirine. Maintenant, l'aspirine a changé de nom, enfin, a toutes sortes de noms, mais c'est toujours la même molécule, n'est-ce pas? Prendre l'aspirine, c'est un cas tellement facile, l'aspirine, et hop, le mal de tête est parti. Il y a des dafalgans, de tout ce que vous voulez. Maman, j'ai mal à la tête. Prends un dafalgan. Qui dit prie d'abord? Le cas est facile. Trop facile, fiston. Mais quand c'est un cas sérieux, c'est là qu'on va voir Dieu. Vous savez, Daniel était serviteur de Dieu. Il était connu comme traitant des questions difficiles. On n'appelait jamais Daniel pour des questions faciles. C'était toujours des choses compliquées. Des songes dont le songeur lui-même ne se rappelait pas. Des cas tout à fait impossibles. C'est là qu'on se souvenait qu'on avait un Daniel dans le royaume. Et c'est valable pour nous en tant que chrétiens. C'est pareil. Quand le cas est compliqué, c'est là où on dit toujours, frère, prie pour moi. Ou bien on vous parle d'un cas compliqué. Vous dites, vous ne savez plus quoi dire. Hein? Vous dites, mon frère, on reste en prière. Non, est-ce que c'est votre droit d'aller en prière? Mais bien sûr. Dieu ne vous fera jamais le reproche disant, ah, quand c'était facile, hein, tu ne venais pas, maintenant que tu le sens, tu le vois venir, maintenant tu viens. Dieu ne vous fera pas le reproche. Hein. Il attend que vous veniez. Et quand vous viendrez, il vous écoute. Dieu entend les prières. Il dit, c'est un cas difficile que tu demandes là, mon frère. Il dit, mais néanmoins, le Dieu que je sers, puisque si on va regarder dans 1 Roi 18, n'est-ce pas? On va voir, il a servi Dieu, où tout le monde a s'est écrié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il dit, néanmoins, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Tu auras cette chose difficile. Sinon, cela n'arrivera pas. Il faut voir. Or, la foi est une vision, en fait. C'est une démonstration. Dans Actes 14, je crois. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'une guérison. Acte 14. Verset 8. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule. Satan est certainement venu lui dire à cet homme, ça, ce n'est pas pour toi. Tu es boiteux de naissance. C'est comme l'aveugle-né. Tu es aveugle de naissance. Jamais on n'a vu un aveugle de naissance guérir. Mais que vous soyez de naissance ou pas, C'est votre droit de demander. La naissance ne vous condamne pas. Il écoutait parler Paul. Il a bien fait. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi vient de ce qu'on entend. Et il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Puisqu'il a la foi pour être guéri, il est en droit de demander sa guérison. Dit d'une voix forte, Paul dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Yes. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Nous avons donc le droit de demander ce que Dieu nous promet. La double portion de l'esprit, c'est un droit pour nous. Ce droit de naissance, nous avons le droit de demander. Si nous ne le recevons pas, nous, Dieu nous dit, hein, et c'est lui-même qui nous le dit, hein, importunons-le.
Amen. Amen.
Jusqu'à ce qu'il nous le donne. Nous y avons droit. Amen. Vous n'avez pas encore vu cet enfant qui s'accroche à la jupe de sa mère ou bien au pantalon de son papa. Il a vu quelque chose dans un magasin. « Papa, je veux ça, je veux ça. » Le papa se fâche. Mais non, l'enfant n'en démord pas. Hein. Finalement, hein, je vais te donner. Vous arrivez à la maison, vous dites, « Mais j'ai dû lui donner. Pourquoi ? Mais les gens regardaient. Ah, il a su comment le prendre. » Nous devons aussi savoir comment prendre Dieu au mot. Vous avez le droit. Et parce que le Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est la promesse du Père. Le Père a promis. Luc 24. Luc 24. Verset 49, c'est Jésus avant de partir. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. S'ils avaient quitté la ville, ils n'auraient pas reçu. Mais ils sont restés dans la ville. Faites ce que Dieu vous demande de faire et la promesse se réalisera. Et quand nous avons reçu la promesse du Père, nous pouvons demander maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas le prononcer n'importe comment. En Corinthiens 12. Verset 3 ou verset 2, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Si vous parlez par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne direz pas. Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Et ainsi, lorsque vous demandez quelque chose au nom du Seigneur, que celui qui prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dieu n'est pas sourd. Dieu nous entend. Les choses qu'il nous a promises, comme disait Frère Manique, paix à son âme, Dieu n'en a pas besoin là-bas en haut. La guérison, Dieu n'en a pas besoin en haut. La délivrance, Dieu n'en a pas besoin là-bas en haut. Ces choses sont là-bas pour nous. Nous, ici en bas, nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour nous-mêmes. Nous avons besoin pour nos parents, pour notre papa, notre maman, pour notre tante, notre oncle. Nous en avons besoin pour notre frère, notre sœur. Nous en avons besoin pour nous tous. Les uns pour les autres. Nous en avons besoin. Et le Saint-Esprit sait ce qui est agréable. Dieu est très fort, Dieu est tout puissant. Dans la mesure où quelque chose qui n'est pas dans notre intérêt, nous ne demanderons pas. Même si nous pensons que c'est ça notre bonheur, Dieu ne nous le donnera pas. Je manque d'argent pour payer je ne sais pas quoi. Dieu ne me fera pas gagner au loto parce que ce n'est pas mon intérêt spirituel. Ce qui fait, toute prière que je ferai pour gagner au loto, ce sera fait par moi-même. Ce ne sera pas au nom de Jésus-Christ. Même si je prononce le nom. Mais quelque chose qui est bien pour mon salut, ah, là, ce sera au nom de Jésus-Christ. Demande-lui ce qu'elle veut. Ah, qu'est-ce que je peux demander, frère Branham? Qu'est-ce que je peux demander? Tu as une sœur qui est malade, là, tu peux demander sa guérison. Ah, qu'est-ce que je... Oui, si je demande sa guérison, elle sera guérie, elle va encore retomber malade. Je veux le salut de mes enfants. Amen. Cela lui a été accordé. Amen. Elle a usé de son droit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Votre droit, ne le méprisez pas. Ésaü a méprisé et Dieu l'a haï. Et si vous aimez votre droit que Dieu vous a accordé, Dieu vous aime. C'est ainsi que vous saurez aussi que Dieu vous aime. Si vous aimez les droits que Dieu vous a donnés. Prions, Seigneur. Père Céleste, tu es celui qui nous fait droit. Et beaucoup vivent en dessous de ces droits, subissant des choses qu'ils ne doivent pas subir. Ne recevant pas des choses qu'ils sont en droit de recevoir. N'ayant pas la liberté qu'ils devraient avoir. Mais c'est leur droit que de posséder tout cela. Parce que chacun puisse vivre au niveau de ses droits. Bénis tes enfants. Sois avec chacun d'entre nous. Donne à chacun la foi que pour pouvoir venir chercher ce dont à quoi il a droit. Venir chercher sa part de l'héritage, part de la promesse que tu lui as faite. Et ainsi, nous en réjouir chaque jour. Te remercions pour ce rassemblement. Te remercions pour nous avoir rappelé que ce sont des droits, des choses que nous pouvons exiger, réclamer. Nous réclamons cela, cette promesse du Père. C'est pour nous. Quoi qu'il nous fera faire, c'est ça que nous voulons. C'est ce que nous désirons. Le Saint-Esprit que tu as promis, que tu l'accordes à chacun de tes enfants, à ceux qui te le demandent, à ceux qui t'obéissent. de leurs droits. Te remercions pour cela. Tu tardes à venir. Nous avons culte le dimanche. Et nous avons aussi le droit de te demander d'être parmi nous, parce que tu l'as promis. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Oh, fasse vraiment que cela soit en ce nom merveilleux que nous nous réunirons ce dimanche, si tu tardes à venir. Et partout où l'on se réunit en ton nom, que tu sois avec tes enfants. Te remercions, Père, pour ce jour, pour le souffle de vie. Maintenant, raccompagne-nous dans nos maisons, ceux qui ont dû partir avant, que tu sois avec eux, là où ils sont, s'ils sont déjà arrivés ou s'ils sont en chemin. Sois également avec nous en chemin. Protège-nous pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons notre prière. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.